Avec mes collègues vont partir à Bruxelles pour la grève. J'ai même pensé y aller en tant que je suis syndiqué, mais je me dis on respecte, et de toute façon, est-ce qu'on change pas quelque chose? Même si on n'est pas d'accord tout à fait avec toutes les mesures qui ont été envisagées, qui ont été prises déjà, qui ont déjà été scellées, dont certaines, avec un retour en arrière au niveau des droits et des privilèges. Et oui, par rapport à la situation ancienne, il y a quelques années, on peut être pas content par rapport à certaines situations qui vont dans le négatif, et on peut épouser des pensées négatives sur plein de choses, sur le gouvernement, sur le ministre, sur le temps qu'il fait, sur les situations que nous vivons. Pas content avec les salaires que nous avons, avec les problèmes, la voiture qu'on a, avec toutes les situations, les relations au boulot, les relations à l'école, nos profs, l'attitude de nos profs, pas toujours sympa, quelquefois. Hein? Et on peut être mécontent sur plein de choses. Le mécontentement gagne. Hein, les Belges sont souvent mécontents. Enfin, il n'y a pas que les Belges, hein. Les Européens, et c'est dans tous les continents. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont plus de propension à être enthousiastes malgré que les choses ne vont pas, garder le sourire. Il y a des gens qui ont plus facile de relativiser que d'autres. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons en tout cas avoir l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus, c'est pas l'esprit des fétistes, c'est pas l'esprit de la négativité. C'est pas l'esprit du murmure et de la critique, et c'est autre chose, c'est une autre façon d'être. Et ça, c'est intéressant de découvrir l'esprit de Jésus, l'esprit de foi, l'esprit positif. Voilà, je crois que c'est tellement important. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui peut attirer l'approbation de Dieu sur nos vies et la bénédiction, la joie et le succès? Finalement, c'est ça que je veux, non? Nous voulons être approuvés de Dieu dans nos voies. Que vraiment la bénédiction soit sur nos vies. Pas ça que nous voulons. Oui, nous voulons la joie et le succès. Alors, il y a des choses qui contribuent à la joie, au succès, à la direction victorieuse, à une façon positive de voir la vie. Moi, j'aime bien d'aller aux États-Unis parce que, en général, les Américains, je dis pas tous, il faut peut-être pas faire de généralité, mais il y a quand même un esprit dans les églises, en tout cas que j'ai visité l'église et je vois un petit peu les missionnaires comment ils sont. Les missionnaires américains en Belgique sont positifs. Positifs. On a été en rue pour évangéliser avec deux frères américains, deux missionnaires. Il y avait un qui jouait de la guitare, sans aucune, il fait ça toutes les semaines, c'est pas difficile. Et l'autre est animé de le frère Rian Kirby, et l'autre frère animé du désir. Il y a rien qui les arrête et on se fracasse pas pour tout ce qu'il peut y avoir quand on évangélise en rue. C'est formidable. L'esprit positif en toute situation. J'ai vu en Amérique, ben, les chrétiens n'ont pas peur de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas peur de parler de leur foi. D'être positif dans leur manière d'être. Et ça, c'est important. Comment doit-on vivre pour que l'atmosphère que nous dégageons soit positive dans notre cœur et sur nos semblables? Comment est-ce qu'on doit vivre pour que cette atmosphère soit transformée, qu'on dégage quelque chose de positif? Et il faut le vivre, hein. Parce que si on travaille sur l'extérieur de nos vies, on n'arrivera pas. Hein, le commerçant, il peut essayer de, voilà, il doit avoir la parade du sourire, le sourire commercial pour attirer ses clients, d'accord? Ben, même si c'est pas la réalité de lui, ben, peu importe. Le moment qui frime la joie et voilà, l'accueil, c'est bon, il peut penser ce qu'il veut, mais bon, c'est l'extérieur qui compte. Mais nous, c'est l'intérieur qui compte, parce que c'est à partir de l'intérieur que la joie va se développer. Si notre cœur est dans la joie, la joie va se lire sur l'extérieur. Si la joie n'est pas à l'intérieur, notre sourire va pas être fort. Il va pas être vrai. Il va pas être sincère. Non. Alors, quelle est la clé d'une vie heureuse dans le Seigneur? Démoche Akarian, qui a créé les 1000 chapitres, hein, le chapitre du plein évangile au monde entier, il a écrit un livre, Les gens les plus heureux de la terre. Évidemment, ce sont les chrétiens. Normalement. Hein. Un chrétien triste, c'est un triste chrétien. C'est catastrophique, ça. Non, un chrétien devrait être joyeux parce que c'est les personnes les plus heureuses. Ils ont la bonne nouvelle avec eux. La bonne nouvelle, c'est d'avoir Jésus tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous, en nous. L'espérance de la gloire dans nos vies, dans nos cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai des promesses extraordinaires. J'ai des promesses de la vie éternelle en Jésus-Christ. Je devrais être heureux avec ça. Si je vis avec ces promesses-là, évidemment, si je vis avec mes murmures et mes critiques, évidemment, je suis le visage des faits. Hein, comme le matin quand on se regarde dans une glace, on est coiffé, et avec toutes les pensées qu'il peut y avoir pendant la nuit, on ne s'est pas toujours arrêté parce que les pensées, ça, hein, quelquefois on s'arrête pendant la nuit, c'est bon, hein, c'est prier contre ces choses-là, mais des fois, bon, hein, toutes sortes de pensées qu'il peut y avoir, et nous devons être maîtres de cela. Alors, comment cela peut-il se produire? Les murmures, les critiques, perturbent notre relation avec Dieu et font du tort aux autres. Ça, c'est clair. Si vous voulez perturber dans votre relation avec Dieu, ben, laissez les critiques et les murmures filer, c'est les mauvaises herbes dans votre vie, dans votre cœur. Soyez de bons jardiniers. Enlevez toutes les racines des mauvaises herbes. Parce que pas seulement les mauvaises herbes, mais les racines. Hein, tout ce qui les produit. Hein. Alors, on voit cela dans l'histoire d'Israël dans le désert. Dieu avait envoyé 12 explorateurs pour visiter le pays promis. Et ils sont revenus avec des fruits, parce que Moïse leur avait dit, revenez avec des fruits de la région. Ils sont revenus avec une grappe de raisins et qu'il fallait être à deux pour la porter tellement... C'était lourd, c'était gros, c'était fantastique. Et là, ils ne pouvaient pas dire que c'était pas une région extraordinaire, un pays où coule le lait et le miel. Ah, oh, c'est vraiment un pays fantastique, pays de cocagne, vraiment magnifique, extraordinaire. Mais voilà, ils ont vu autre chose. Ils ont vu des géants, ils ont vu qu'ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux, etc. Ils ont vu des villes fortifiées et ils se sont dit, c'est impossible, on peut pas y arriver. On n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Et Caleb, qui était de la tribu de Juda, un des 12, il était animé d'un autre esprit. Il voyait les choses d'une autre manière. Il y a plusieurs manières de regarder un verre. Hein, un verre qui est rempli à moitié, ben on le voit soit à moitié vide ou à moitié plein. C'est deux manières différentes de le voir. C'est le même verre. Mais il est soit à moitié vide, soit à moitié plein, comme est-ce que vous le voyez. Hein? Positivement, il est à moitié plein. D'accord? Caleb, au verset 30, en nombre 13, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il murmurait, il disait du mal de Dieu et de la direction que Dieu leur donnait, la façon de faire. N'accepte pas ça. Il dit, Caleb, il dit, montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Dieu leur avait donné la promesse qu'ils seraient vainqueurs pour prendre le pays de Canaan. Ils allaient être vainqueurs. Donc, ça venait pas de Caleb, cette histoire-là. C'était pas les bonnes pensées positives de Caleb. C'était simplement la promesse que Dieu avait faite à Israël et qu'il redisait par ses lèvres. Emparons-nous de ce pays, Dieu va nous donner la victoire. Nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. C'est 31. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils décrièrent. Ils dirent du mal. Ils dirent du mal du pays que Dieu voulait leur donner. Il disait le contraire des promesses. Est-ce que ça ne nous arrive jamais de dire le contraire de la promesse de Dieu? de dire du... Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de dire, ben non, ta volonté, elle est pas bonne, elle est pas agréable, elle est pas parfaite. Parce que je la trouvais pas à mon goût, sa volonté, d'accord? Je passais par un tunnel et je trouvais pas ça bien. C'était pas gay, hein? Et des fois, on passe par une vallée sombre et on n'aime pas. Seigneur, non, le changement de paysage, je n'aime pas ça. Je n'aime pas de marcher dans une sombre vallée, franchement. C'est pas intéressant. Mais, parce que nous ne connaissons pas la suite. Mais la suite, il y a des bénédictions extraordinaires. Dans la vie, c'est pas toujours facile. Et il y a des cheminements douloureux, difficiles. Et, il y a beaucoup de douleurs, comme la femme qui va accoucher. Et il y a un bonheur extraordinaire, celui d'enfanter, d'avoir un bébé, c'est la vie, c'est quelque chose de beau, c'est fonder une, c'est la famille, c'est qui s'agrandit, mais il y a des douleurs de l'enfantement. Et bien souvent, il y a beaucoup de douleurs dans nos vies. Hein. Pour arriver à ce que notre foi devienne réelle, il y a des enfantements douloureux. Et c'est pas toujours facile. Qu'engendre la critique? Qu'est-ce que engendre la critique? Qu'est-ce qu'elle produit, la critique? Eh bien, la critique, premièrement, elle outrage Dieu. C'est un outrage. Dieu est offensé. Dieu est outragé. On le voit cela au chapitre 14, verset 11, nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? C'est un outrage qui est fait à Dieu. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le déposséderai de ce pays. Alors, le murmure, la critique, provient de l'incrédulité qui est un péché devant Dieu. L'incrédulité, eh bien, n'est pas agréable à Dieu du tout. C'est la foi qui est agréable à Dieu. Et la critique, c'est le contraire de la foi. Voilà, c'est l'opposé de la foi. Si on dit croire en Dieu et qu'on critique les choses que Dieu nous donne, etc., eh bien, nous montrons par là que notre foi, elle n'est pas réelle. Parce que on fait une œuvre contre notre foi. Et nous ne pouvons pas être agréables à Dieu sans la foi. Impossible. Alors, elle cause du tort aux autres en dénigrant l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est dénigrée et forcément, ça fait du tort aux autres. Parce qu'elle influence et entraîne les autres à aller dans le même sens. Quand nous dénigrons, que nous sommes négatifs, eh bien, nous influençons tous ceux qui sont autour de nous, qui peuvent nous entendre. Notre attitude peut influencer les autres. Et on voit ça aussi dans Nombre 14, verset 36, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer toute l'assemblée. En fait, les murmures ont engendré un murmure généralisé. Et donc, faisons attention que nos murmures ne puissent se généraliser à toute l'assemblée, à beaucoup d'autres personnes. Et donc, nous sommes des exemples, mais nous pouvons très bien être des contre-exemples qui peuvent faire du tort. Par contre, et ça c'est une bonne nouvelle, Caleb était animé d'un autre esprit. Animé d'un autre esprit. Nombre 14, verset 24. « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. » Donc Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est-à-dire pas un esprit de défaite, pas un esprit de critique, pas un esprit de murmure, mais un esprit de foi. Un esprit de louange à Dieu, parce que quand on proclame la promesse de Dieu, c'est comme une louange à Dieu. On fait référence à Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. C'est une forme de louange, en fait, aussi. Et Dieu lui dit, parce qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Il y a des promesses que nous acquérons pour nous et pour nos enfants. C'est une bénédiction qui va influencer des générations. non seulement des personnes qui peuvent nous écouter, mais des générations. Quand nous proclamons la parole du Seigneur et que nous ne permettons pas au murmure et au négativisme de venir sur nos bouches. Il confessait victorieusement la promesse malgré l'opposition. Il y avait de l'opposition, parce que quand ils sont revenus de Canaan, tout, ils se sont parlé, hein. Il ne faut pas rester muet comme ça, et puis alors tout d'un coup ils disent des choses négatives. Ils se sont entretenus, hein, pour être à 10. Dans les 12, ils sont bien entretenus. Et les deux autres ont dû jauger, juger, vérifier, se rappeler. Et en se rappelant la promesse de Dieu, ils se sont dit non. Non. Non, non, non. C'est pas ce que Dieu nous a dit. Oh, vous allez trop loin. Et ils se sont reculés par rapport à ça. Et Caleb, qui était plus âgé que Josué, prendra cette parole. Et il va confesser victorieusement la promesse. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qu'il murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Voilà. Parce que des fois, quand l'opposition est là, on se dit, oula, il vaut mieux pas parler. Il y a trop de gens négatifs. Et si je vais aller dire quelque chose, je vais me faire flinguer. Donc, mais lui, il n'a pas peur de dire, malgré l'opposition ambiante qui est là, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et il le dit à haute voix, pas seulement dans ses pensées. On pourrait dire, oh, je pense autrement, mais je ne le dis pas. Parce que je ne suis pas avoir de problème. Non, 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 il le dit à haute voix. Parce que les autres se sont exprimés négativement, il a le droit aussi de s'exprimer positivement. Les pensées négatives, les critiques et les murmures proviennent de l'ancienne nature. Ça, vous le savez bien, c'est pour ça que je vous disais, que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui critiquent, parce que ça vient de notre vieille nature, et un grand nombre de personnes sur la terre vivent par leur vieille nature. Déjà, en tant que chrétien, c'est pas évident, il faut la faire mourir, cette vieille nature. Est-ce que tout le monde y arrive? Pas toujours. Parce que des fois, on la laisse vivre. Hein, c'est plus facile, d'ailleurs, de laisser le naturel s'épanouir, plutôt que d'avoir une vie spirituelle cohérente, en adéquation avec la parole de Dieu. Hein, il y en a qui pensent que c'est ceux qui sont faits, qui sont chrétiens. Au contraire, ça nous demande beaucoup de discipline et de maîtrise de nous, et de pouvoir abandonner notre vie entre les mains de Dieu, et de vivre selon ses principes. Et c'est pas aussi simple que ça. Mais par la grâce de Dieu et par l'Esprit du Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Les pensées négatives, les critiques et les murmures proviennent de l'ancienne nature. Tout doit mourir. Tout cela doit mourir. Les murmures, les critiques. 1 Corinthiens 10, verset 10, ne murmurez pas, c'est Paul qui nous dit ça, comme certains d'entre eux l'ont fait de sorte qu'ils sont morts sous les coups des destructeurs, c'est-à-dire que, à cause de leurs murmures dans le désert, ils sont restés 40 ans dans le désert, ils sont tous morts. Dieu a attendu, puisqu'il disait, nous ne voulons pas mourir, nous voulons pas que nos cadavres gisent dans le désert, nous allons tous mourir si nous restons ici, si nous faisons ce que Dieu nous demande, etc. Eh bien, Dieu les a pris au mot. Puisque vous dites ça, c'est ça qui va vous arriver. C'est sorti de votre bouche. Vous allez mourir, vos cadavres allaient être dans le désert, mais c'est ça qui va se produire. Dieu les prend au mot. C'est ça que vous avez prononcé, c'est ça qui va se produire. Donc, faisons attention. Dieu nous prend au mot. Quand on le prie pour quelque chose de puissant, de fort, des fois, on est étonné. Bah, qu'est-ce qui se passe? Dieu a répondu. Waouh, ça ne devrait pas nous étonner. Mais attention que nos paroles négatives pourraient se produire aussi. Faisons attention de ne pas laisser sortir de nos bouches des choses négatives qui pourraient démolir notre avenir. Faisons fort attention à ça. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Le destructeur, c'est qui? C'est le diable, parce qu'il va se servir de ces friandises de murmures et de négativisme, de pensées négatives, de paroles négatives pour les accomplir dans nos vies. Alors, ne lui tolérons pas, ne lui laissons pas ça. Ne lui donnons pas ces friandises-là. Philippiens, au chapitre 2, verset 14, faites tout sans murmure ni contestation. Faites tout. En fait, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout sans murmure et sans contestation. Je pense pas que tu vas regretter. La nouvelle nature créée selon Dieu se réjouit et élève Dieu par la louange. La nouvelle créature créée selon Dieu se réjouit et élève Dieu par la louange. Alors, c'est autre chose. C'est une autre manière de vivre. C'est, on abandonne toute critique. Mais à la place, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on met en place? Que c'est une bonne chose, je vais mourir les critiques et puis s'arrêter. Donc, justement, quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de puissant, quelque chose de... On veut célébrer le Seigneur. On veut avoir des paroles de reconnaissance, d'action, d'adoration. Et dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 15 à 22, il y avait des ennemis, un peuple ennemi qui était venu contre Israël, contre Juda, pardon. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 15 à 20, et on peut reprendre ceci dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Deux Chroniques, au chapitre 20. Josaphat a fait revenir tout le peuple devant le Seigneur. Et les Ammonites et les Moabites, parce que Josaphat a été un roi fidèle, qui a fait revenir le peuple dans l'alliance, qui a été un homme droit, mais tout d'un coup, l'ennemi se range comme un seul homme, enfin, toutes les nations ennemies d'Israël se rangent comme un seul homme pour aller contre Juda. Et souvent, quand nous réformons nos voies, quand nous faisons en sorte que les choses aillent droitement, nous commençons à obéir à Dieu, eh bien, l'ennemi envoie ses armées pour nous foutre, pour nous créer des problèmes, pour nous mettre des bâtons dans les roues, et pour nous faire croire que finalement, mais tu n'avais pas besoin d'obéir à Dieu comme ça, tu as vu des problèmes, maintenant tu as. Non, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est tout à fait normal. Si vous obéissez à Dieu, si vous vivez pieusement Jésus-Christ, vous serez persécuté, vous aurez des problèmes, des difficultés. Il faut pas croire que tout va être rose et violet. Ça va pas être forcément comme cela. Et Josaphat est un homme qui se tient droit. Il cherche Dieu, il cherche la face de Dieu. Et un prophète va se lever. Et ce prophète, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 15 à 22, c'est Yahaziel, verset 15. Et il vient et il dit à Josaphat ceci, et au peuple. C'était réuni tous ensemble, ils priaient, ils jeûnaient, ils cherchaient Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, voilà, il y a les ennemis qui veulent nous faire la guerre, qu'est-ce qu'on va devenir. Et Yahaziel dit, soyez attentifs tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont arriver par la montée de Hatsis, et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haute. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait « Célébrez l'Éternel car sa bienveillance dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Ils vont s'entretuer les uns les autres et Dieu va leur donner une victoire extraordinaire parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont loué le Seigneur. Ils ont non pas murmuré, ils n'ont pas confessé leur peur, leur crainte et leurs angoisses à Dieu. Bien sûr, on peut confesser cela, mais c'est surtout l'action qui provient de la peur qui est mauvaise. C'est pas la peur qui doit nous diriger. C'est pas la crainte qui doit nous faire agir d'une manière ou d'une autre. Dieu établit son trône au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de son peuple. Et il nous donne la victoire quand nous échangeons nos peurs avec la foi en ses promesses. Alors, pas de crainte, il n'y a pas besoin de crainte, parce que Dieu est là, il contrôle la situation. Sa première leçon à découvrir, pas de crainte. Dieu connaît la situation, il a la situation bien en main. Faisons confiance au Seigneur. Deuxième chose, ce n'est pas le combat de Josaphat, mais c'est le combat de Dieu. Ce n'est pas notre combat quand l'ennemi vient s'opposer à nous, nous faire du tort à l'un des personnes de notre famille. Quand l'ennemi s'acharne pour essayer de nous faire du tort, ce n'est pas notre combat. Mais c'est le combat de Dieu. Laissons-lui. Laissons-le conduire ce combat. C'est lui qui tient le combat en main. Troisième chose, il faut se positionner dans l'obéissance. Obéir en se positionnant. Il devait se tenir prêt, debout, à un endroit précis. Il devait être là, simplement être là. Être présent, être là, où Dieu leur a montré au moment voulu. Et notre position, c'est quoi? C'est où que nous sommes là? Nous sommes assis sur une chaise. Oui, d'accord. Mais nous sommes pas seulement assis sur une chaise, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre vraie position, c'est pas tellement notre place sur la terre, c'est notre place dans le ciel. Est-ce que nous connaissons notre position dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Est-ce que nous connaissons que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous sommes ressuscités en Jésus-Christ et assis dans les lieux célestes. C'est notre position. Et de là, nous officions aussi comme Jésus en tant qu'intercesseur. Nous pouvons prier et adorer celui qui vit au siècle des siècles et qui tient toutes choses en ses mains. Notre position, c'est pas une position de petite personne sur la terre qui est effrayée par le mouvement des problèmes. Mais si nous sommes assis dans les lieux célestes, est-ce que le trône de Dieu tremblait au jour du déluge? Le trône de Dieu ne tremblait pas au jour du déluge, au jour des tremblements de terre et de tous les problèmes qu'il peut y avoir. Mais si nous sommes dans les lieux célestes, nous n'avons pas à trembler non plus. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont louer Dieu à haute voix. Nous devons apprendre à louer Dieu à haute voix. Nous n'avons pas à avoir peur de louer Dieu au milieu de l'assemblée. Je te louerai au milieu de l'assemblée, dit David. Nous ne devons pas avoir peur. C'est notre rôle. C'est pas seulement louer dans mon cœur. Oui, moi je loue dans mon cœur. C'est bien, mais la louange, ça doit sortir de nos lèvres. Ça doit sortir de nos cœurs et passer au travers de notre bouche. Parce que c'est une confession, la louange. C'est pas seulement quelque chose qui se passe dans nos pensées, c'est privé. La religion, c'est privé, c'est à l'intérieur de ma vie, ça ne regarde pas les autres. Non, il y a quelque chose de public. Tout est public. Dans la vie de Jésus, sa naissance a été publique. Sa mort a été publique. Sa résurrection a été publique. Son ascension a été publique. 500 personnes l'ont vu monter au ciel. Et notre vie, elle est publique. Quand je passe par le baptême, c'est public. C'est pas quelque chose de privé, même dans ma salle de bain. Hein. Non, non, c'est au milieu de l'assemblée. Et quand je témoigne, c'est public. On devrait savoir que je suis chrétien. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont mourir autour de moi en disant « Je ne savais pas qu'il était chrétien, celui-là. » Quelle catastrophe. Il y a des gens qui sont morts et leurs voisins ne savaient même pas qu'ils étaient chrétiens. Ouf. C'est grave quand même, non? Les gens autour de nous qui ne savent même pas qui on est. C'est vraiment la catastrophe. Hein. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Celui qui ne me confesse pas, qui a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de le confesser devant mon Père, dit Jésus. Donc c'est tellement important. On a peur des fois de souffrir, mais on ne va pas toujours souffrir. Ici, de toute façon, on n'a pas grand-chose à craindre, à part, oui, on pourra dire quelque chose sur notre dos, mais bon, ça a encore assez limité. Et regardez les chrétiens de l'église persécutée, ils ont pas peur. Hein, ils risquent beaucoup, hein, ils risquent 100 fois plus que nous et ils le font parce que ils estiment que le salut des autres est très important. Ils veulent pas mourir dans la foi et laisser le restant du monde valser en enfer. Ça c'est égoïste, c'est vraiment pas penser aux autres. Je veux pas embêter non plus les autres, hein, je veux pas embêter les gens, surtout ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'évangile. Quand on a parlé avec quelqu'un et que cette personne n'a pas envie d'écouter, faut pas l'embêter non plus. Mais il faut avoir au moins donner une occasion à toute personne sur la terre d'entendre la parole de Dieu. On tolère, c'est sûr, la tolérance, mais c'est confesser, hein, c'est très important. Tolérer, oui, d'une certaine manière, on tolère une tolérance, mais comment est-ce que Dieu voit la tolérance? Il tolère. Est-ce qu'il tolère le péché? Est-ce qu'il tolère le péché dans le ciel? Ah, tout le monde ira au péché. C'est comme le chant, là. Michel Polnareff. On ira tous au paradis. On ira. D'accord? On ira tous au paradis. Fantastique, ça. Hein, tout le monde ira. Hein, les bons, les méchants et tout ce qu'on a fait. Peu importe. Mais la réalité n'est pas là. Malheureusement, il faut être clair. Alors, louer Dieu à haute voix. N'ayons pas peur de louer Dieu à haute voix. Être ferme dans notre confiance pour être ferme dans notre défense. Être ferme dans notre confiance. Et notre confiance, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux dit que nous devrions déjà être des mères. Mais nous sommes encore au lait spirituel. Ça veut dire que nous devons affermir notre vocation. Nous devons fortifier notre foi, nous enraciner, être bâtis sur une solide fondation de la parole de Dieu, connaître en profondeur la parole, pour être fort contre vents et marées, contre toutes les paroles humaines qui pourraient aller à l'encontre de notre foi. Nous devons être fondés et creuser notre foi soit solide, afin que nous puissions être fermes dans notre confiance, parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu, parce que nous la vivons réellement, pour être fermes aussi dans notre défense. C'est le Seigneur qui va nous défendre. C'est que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs et nous défend lui-même. Alors, il y a aussi la confiance dans la parole révélée de Dieu, le prophète, et confiance dans ces prophètes. Ayons confiance dans la parole révélée. La parole de Dieu qui nous a été donnée par la Bible. Ayons confiance en cette parole. Et quand Dieu nous parle dans nos cœurs, ayons confiance, obéissons à ce que l'Esprit dit à nos cœurs et à l'Église. Le succès, alors, est assuré. Le succès est assuré. Il faut même pas penser à autre chose. Le succès est assuré. Si Dieu nous promet, nous devons y croire. Chanter de tout notre cœur des psaumes et des hymnes, bien sûr, parce qu'ils vont commencer à chanter. Et l'apôtre Paul nous exhorte à chanter et à louer Dieu de tout notre cœur, par des hymnes, par des psaumes, de tout notre esprit, en rendant grâce au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passera au final? Mais l'histoire nous le dit, hein, la destruction du plan de l'adversaire. L'ennemi qui a voulu combattre Josaphat, ils étaient trois, hein, ceux de Séir, c'est les descendants d'Ésaü, il y avait Édom et les Moabites. Hein, Moab et Édom, c'est les descendants de Lot, qui ont été des ennemis pour Israël, et on voit qu'ils n'ont pas pu détruire Israël, parce que Dieu a détruit le plan d'adversaire. En conclusion, le Seigneur veut attirer nos yeux sur ce qu'il fait. Il veut attirer nos yeux sur ce qu'il fait. Nous devons être attirés par tout ce qu'il réalise dans nos vies. Nous devrions tous avoir des petits calepins, hein, ou sur l'iPad, l'iPhone, peu importe, et noter en tout cas, noter tout ce que Dieu fait chaque jour. Pour ne pas oublier, pour se rappeler, pour relire. Relire les bénédictions de Dieu, parce qu'on pense, on passe à autre chose. Ah, il s'est passé ça, Dieu a répondu, je ne sais même plus, j'ai oublié. Et c'est presque du hasard, à la limite. Alors que nous avons prié pour une chose précise, nous avons reçu, est-ce que nous avons remercié? Quelquefois, nous oublions même de remercier Dieu. Il fait tellement de choses pour nous. On devrait les noter. Dieu travaille dans le détail. Il n'y a pas que des grandes délivrances, des grandes guérisons. Il travaille dans le détail, il travaille pour des choses toutes simples. La paix, quand je passe un examen, en tout cas que je ne sois pas complètement déboussolé, dans une angoisse où je ne sais plus rien faire, Dieu me donne suffisamment de paix. Une paix parfaite comme si j'avais fini mes examens, mais il donne suffisamment de paix. Hein, c'est comme un acteur de théâtre qui doit aller sur les planches, il n'a pas une paix au point que il est en vacances, quoi, hein. Non, il sait qu'il a il y a quand même un rôle à jouer, c'est pas facile, c'est pas évident, mais il y a suffisamment de confiance pour que tout se passe bien. Et voilà, quand on prie pour ça et qu'on reçoit, on doit être reconnaissant, non? C'est fantastique. Avoir Dieu avec soi. Moi, quand je passais mes examens, j'avais pas Dieu avec moi, enfin je ne connaissais pas le Seigneur à ce moment-là, et j'étais des fois angoissé, des fois mal dans ma peau, d'une manière incroyable. Et quelle chance de connaître le Seigneur. Quelle bénédiction extraordinaire. Je m'appuie sur lui, et je suis délivré de mes craintes, je suis délivré de mes angoisses, je suis délivré de mes tourments, de mes difficultés, des pensées négatives que l'ennemi peut venir mettre dans notre tête. Et on met ça dehors, et on remplace par des pensées véritables, des pensées de bénédiction, des pensées qui nous réjouissent notre âme. Nous devons avoir la culture de la louange et cultiver cet esprit de louange dans notre église. Cultiver l'esprit de louange dans notre vie. Parce que si nous voulons cultiver l'esprit de louange dans l'église, il faut commencer chez soi. Il faut commencer tous les jours, à partir du matin jusqu'au soir. Confesser tout ce qui va bien. Confesser que les choses vont s'arranger. Confesser qu'il y a des belles choses auxquelles Dieu nous appelle. C'est pas seulement ce qu'on voit qui est difficile, qui coince, qui fait défaut. On va pas tout le temps se remémorer ces choses-là, mais on va plutôt avoir une culture de la louange. Et toujours voir le positif. Toujours voir le fait qu'il y a une porte de sortie à tous les problèmes. Et on va le louer pour ce qu'il est en train de faire. Et cette culture, c'est de se rappeler ce que Dieu fait pour moi jour après jour. Et redire à Dieu ce qu'il a fait pour moi va encourager ma foi. Redire tout ce que Dieu fait pour moi. Et ainsi confesser avec mes lèvres, pas seulement dans mes pensées. Et ça commence dans mes pensées. Parce que le négatif, il est d'abord dans mes pensées avant d'être sur mes lèvres. Donc faisons attention. Tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange sera l'objet de vos pensées. Et c'est vrai que, qu'est-ce que Dieu pense de ce que je pense? Comment est-ce que Dieu voit mes pensées? Et ça, c'est important. Que vraiment j'ai des pensées qui puissent être honorées par Dieu. Là, ça commence par là. Puis alors, je vais travailler sur un deuxième plan. Qu'est-ce que je fais sortir dans mes paroles? Est-ce que ça glorifie Dieu? Et il y a des fois des paroles qui sont limites, négatives. Si vous constatez que vous avez plus de 50% de paroles négatives, vous êtes vraiment dans le rouge là. Et il faut réduire ces choses. C'est vrai qu'il y a des faits qui existent, on peut pas des fois les nier, mais on doit vraiment aller vers la porte de sortie de ces choses-là, qui est la confession de la bénédiction, parce que Dieu nous appelle à la bénédiction. Et Dieu nous appelle à bénir les autres. Et Dieu nous appelle à bénir notre vie, nos situations dans lesquelles nous sommes et que nous traversons. Et pas dénigrer ces choses-là. Pas noircir ces problèmes. Parce que ça ne fait pas du bien à notre âme. Et si on ne se fait pas du bien à soi, on ne saura pas faire du bien aux autres. Et ces choses-là vont faire du tort aux autres aussi. Redire à Dieu, confesser. Et cette confession de la bénédiction sur nos vies va nous encourager. Alors on va abattre le défaitisme, le découragement, la dépression, les pensées négatives. Nous allons abattre tout cela. Je t'ai établi, disait Dieu à Jérémie, pour abattre, pour retrancher, pour détruire. Quatre verbes de destruction, il fallait de raser tout. Eh bien, rasons un petit peu tout ce qui est négatif dans nos vies. Toutes les paroles et pensées négatives. Et commençons à construire avec les paroles du Seigneur. Des paroles positives, d'encouragement. Nous allons donc à contre-courant de l'esprit de ce monde. Et nous allons amener une atmosphère positive. Extraordinaire. Ça, c'est céleste. C'est pas nous, ça. Mais ça peut être nous. C'est pas nous parce que nous ne sommes pas aussi positifs. Je vais dire que ça. C'est extraordinaire d'être positif comme Caleb. Vous trouvez pas? Vous êtes peut-être comme Caleb naturellement, sans que Dieu intervienne. Vous êtes des Caleb tous? Fantastique, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Mais moi, je ne l'étais pas. Voilà. Je ne suis pas vraiment calé. Mais par la grâce de Dieu, je peux devenir. Par la grâce de Dieu, il est possible que j'ai les paroles de Caleb, que je sois animé d'un autre esprit. Vous le voulez? Eh bien, nous allons prier. Seigneur, merci Jésus. Nous voulons être animés d'un autre esprit comme l'était Caleb. Nous voulons dégager une bonne atmosphère autour de nous, nous voulons encourager la foi des autres et la priorité c'est que notre foi même soit encouragée par nos propres pensées, nos propres propos. Nous voulons pas confesser des choses négatives parce que les choses négatives n'établissent pas le royaume de Dieu, ne te glorifient pas. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom au travers de nos pensées et de nos paroles. Voulons être source et inspiration d'édification pour les autres. Seigneur, voulons que notre très sainte foi soit fortifiée, encouragée, soutenue par ta parole, par les promesses qui viennent de ta parole, qui sont extrêmement positives à notre égard. Nous refusons, nous te demandons pardon pour toutes les occasions loupées. Nous sommes passés par des chemins difficiles et nous avons eu des propos négatifs. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons copié le monde. Nous avons dit plein de choses de mal sur nos situations. Plein de choses de mal. Nous nous sommes même vus négativement. Nous avons été vraiment à l'encontre de tes promesses. Et nous te demandons pardon. Nous voulons revenir à toi. Et te demander de nous inspirer vraiment une autre façon, une autre manière de parler, de penser, qui soit positive, qui voit les choses de la bonne manière. Avec tes promesses, nous voulons serrer sur nos cœurs tes paroles, tes promesses. Parce que toi, tu as les paroles de vie, Seigneur, qui donnent la vie. À qui irions-nous d'autre? Alors, nous voulons dans nos bouches proclamer les paroles de vie qui donnent la vie aux autres. Les paroles qui encouragent notre foi et les paroles qui vont encourager la foi des autres. Merci Seigneur. Merci de nous écouter, d'agir en notre faveur et de nous aider, Seigneur, à avoir ce déclic, de vivre selon tes principes, de vivre selon l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, l'esprit positif qui voit les choses comme toi tu les vois de ton ciel de gloire, pas les choses comme nous les voyons de nos problèmes. Merci Jésus. Merci Père. Merci Père. Change, Seigneur, profondeur. Oui, Jésus. Oui, amen. Oui, Jésus. Amen, amen. Les paroles de victoire. Oui, Seigneur. Amen. Oui, Jésus. Oui, Père. Le bon combat de la foi, c'est vrai.